Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. C'est une Française qui vit à Bruxelles que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans les studios de Canal Academy pour cette émission Partager le savoir. Madame Claire Goyer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue jusqu'à nous et d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez été professeur d'anglais, vous vivez donc aujourd'hui à Bruxelles, particulièrement proche des institutions européennes, et vous avez fondé en avril 2005 une section de l'association Défense de la langue française, la DLF, dont je rappelle que le président est aujourd'hui monsieur Jean Dutour de l'Académie française, une section dont le nom est Bruxelles, Europe, diversité linguistique. Alors évidemment, le choix des mots est très important et c'est sur ce sujet que nous allons parler, vous et moi. Pour nos auditeurs, ce n'est pas une association de défense, une de plus. Vous n'aimez pas tellement ce mot défense, Madame Claire Goyer ?
Écoutez, le mot défense, bien sûr, peut suggérer quelque chose de défensif, donc une citadelle à défendre, une espèce de fort à l'amo. Et ceci, nous ne voulons pas du tout donner cette impression. D'ailleurs, même la DLF de France ne veut pas se définir de cette façon.
Comme une forteresse assiégée.
Exactement.
Donc la langue française n'est pas tant assiégée, mais alors vous avez tout de même intitulé votre association, je le disais, Bruxelles Europe, diversité linguistique. Alors vous avez fait un choix.
Oui, je dois dire que au pays des grammairiens tels que Maurice Grévis ou son successeur André Gauss, il y a aussi de très nombreuses associations consacrées au français et à la francophonie en Belgique. Donc, en créant cette association, nous ne voulions pas entrer en compétition avec elle. Mais en fait, nous avons pensé, et ça il y a déjà quelques années, que vu l'inertie, en quelque sorte, des autorités nationales et des institutions européennes, comme du suivisme général des médias en ce qui concerne la diversité linguistique dans les institutions, nous avons pensé qu'il était temps de fonder, de créer un groupe de pression, en quelque sorte, émanant de la société civile et qui était bien décidé à se faire écho de l'inquiétude engendrée par cette dérive vers le tout anglais qui est en complète contradiction avec les traités successifs.
On va en reparler, oui, en effet.
Mais aussi avec l'esprit même de la construction européenne. Car il faut bien le rappeler, rappelons-en la devise, unie dans la diversité. Donc le mot diversité, nous l'avons repris dans notre titre, diversité, pas seulement culturelle, mais aussi linguistique, bien évidemment.
Bien évidemment. Alors, vous avez donc fondé cette section d'association DLF en avril 2005, maintenant on est en septembre 2006, ça fait donc un an d'existence. Comment s'est passée la création ?
Bien écoutez, d'abord, il fallait qu'on passe un message. Diversité linguistique, c'est quand même un petit peu galvaudé. Mm-hmm. On parle beaucoup de diversité culturelle, l'UNESCO, etc. s'en sont emparés. Évidemment, on ne peut pas... Bon, il fallait qu'on donne un message un petit peu plus précis. Et c'est pour cela que nous avons ajouté au titre de notre section une citation, une phrase que nous avons empruntée à Claude Agege. On ne défend bien sa langue qu'en parlant celle des autres.
C'est un peu votre devise, en
quelque sorte. Absolument, c'est notre devise. Et si vous voulez, dans cette phrase, je pense qu'il y a l'idée d'échange, d'ouverture vers l'autre, une espèce d'idée d'empathie, car j'apprends ta langue pour te connaître et pour me faire connaître. Donc, encore une fois, défendre sa langue, nous sommes quand même défense de langue française. Le mot défense de langue française aussi est important pour nous, car c'est notre identité. Nous sommes un groupe de francophones. C'est important de partir de quelque chose de précis.
Alors, qui il y a dans votre groupe, justement? Eh bien, vous, le présidez, vous en êtes la présidente.
Oui,
il y a des Français, des...
Il y a des gens
des Belges,
de toute nationalité. Des Belges, il y a même, pour ne pas vous cacher, des Anglais, des Irlandais. Des Irlandais, des Italiens, des Allemands.
C'est vraiment l'Europe dans votre
C'est vraiment l'Europe et c'est exactement ce que nous voulions.
Pouvez-vous expliquer cette phrase que vous avez aussi dans vos bulletins, oui à une constitution, non à une langue unique? C'est-à-dire reprendre vos objectifs dans cette association par rapport à l'esprit des traités qui fondent l'Europe. L'esprit des traités, vous l'avez dit, veulent la diversité linguistique. Ça n'est pas respecté apparemment, ou en tout cas on ne va pas dans ce sens-là. Alors quelle est votre position ?
Eh bien, c'est-à-dire que j'ai écrit cet article dans la revue de DLF en 2003. C'était le moment où la Convention sur l'avenir de l'Europe était en train de préparer le traité de constitution. À l'époque, notre association française, avec d'autres associations, avait envoyé à la Convention un document soulevant la question du statut des langues que nous avions accompagné d'un dispositif que nous demandions à la Convention de prendre en compte dans la rédaction du traité. Car déjà avant l'élargissement vers l'Est, la dérive vers le tout anglais était notoire. On parlera justement des raisons de cette dérive un peu plus tard, je pense. Mais nous n'avons pas reçu de réponse à ce dossier que nous avions envoyé. Mais je dois dire que si l'on étudie bien le traité de constitution qui n'a pas été encore ratifié et qui ne le sera peut-être jamais, ce traité reprend toutes les dispositions correspondante en matière de diversité linguistique et culturelle que comporte le traité de Nice, tout en ajoutant des articles nouveaux. Par exemple, on voit que dans la charte des droits fondamentaux, l'Union respecte la diversité religieuse, culturelle et linguistique. Dans ce traité de constitution, on fait une référence à la devise de l'Union, comme je vous l'ai dit, unie dans la diversité,
oui.
Et aussi la possibilité de traduire le traité dans les langues régionales officielles d'un État membre, car il y a des langues régionales officielles, comme en Espagne, où le catalan, le basque, le galicien sont langues officielles.
Absolument.
Mais elles ne sont pas langues officielles de l'Union européenne. Seul l'espagnol l'est. Donc, le traité constitutionnel n'étant pas encore ratifié par suffisamment de pays, nous sommes toujours sous le traité de Nice.
Vous avez parlé là de traduction. Et quel est le coût de ces services de traduction? Parce que traduire tout dans toutes les langues européennes, ça doit coûter extrêmement cher.
Oui, c'est vrai, je vais en parler. Mais je voudrais peut-être, disons, juste préciser de quelques mots la lettre des traités. Que disent les traités en matière de multilinguisme?
Ah oui, bien sûr.
Parce que finalement, si nous pouvons engager quelque chose, c'est parce qu'il y a des textes, parce qu'il y a des règlements, parce qu'il y a une obligation de respecter ce plus, autrement nous ne pourrions rien faire, exactement comme en France, il y a la loi Toubon qui éventuellement peut être utilisée pour faire respecter l'usage du français.
Oui, il y a un cadre juridique qui impose le multilinguisme, voilà, et la diversité des langues.
Voilà, alors je voudrais dire un petit mot là-dessus, même si c'est un petit peu rébarbatif peut-être pour les...
Oui, mais ça fonde
voilà
les choses.
Alors, le respect de la diversité culturelle et linguistique est donc un des objectifs de l'Union. Les traités affirment le droit des citoyens européens d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir aux médiateurs européens, de s'adresser aux institutions et organes de l'Union dans l'une des langues officielles et de recevoir une réponse dans la même langue. Donc c'est très important. Maintenant, il y a finalement un seul texte véritablement juridique qui fonde ce plurilinguisme. Il s'appelle, et les gens qui s'intéressent à ces questions le connaissent bien, il s'appelle le règlement numéro 158. C'est un règlement du Conseil qui est repris lors de tous les élargissements. Toutes les langues de l'Union sont langues officielles et langues de travail. Aujourd'hui, il y en a 21 avec l'irlandais à partir de janvier 2007. Jusqu'à maintenant, l'irlandais était langue officielle, mais pas langue de travail. Maintenant, les 21 langues, y compris le maltais qui n'est parlé que par 300 ou 400 000 personnes, est langue officielle et de travail. Avec l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie, cela fera 23 langues. Donc, si vous voulez, le règlement 158 doit être respecté. Mais il est ajouté que les modalités d'application en sont laissées aux différentes institutions.
Ah, et c'est la porte ouverte à bien des problèmes.
Voilà. Et donc, il y a ce règlement et ces déclarations qui sont absolument incontournables, et puis la réalité du terrain.
Et la réalité, pour vous, elle n'est pas suffisamment proche, justement, de la lettre des traités.
Oui, enfin...
C'est le moins qu'on puisse dire.
C'est-à-dire qu'il y a... C'est difficile, vous parliez tout à l'heure du coût des services de traduction. Oui. Il est évident qu'avec 21 langues ou 23 langues dans très peu de temps, le travail au quotidien n'est pas gérable. Il faut quand même bien se le dire. Et disons que si... Je crois qu'il y a plus de 400 combinaisons linguistiques pour les services de traduction actuellement, et qu'avec le roumain et le bulgare, cela se montera à plus de 500 combinaisons linguistiques. Il faut trouver un système en même temps pour maîtriser les coûts et pour rendre le travail efficace. Puis-je vous donner quelques exemples de plurilinguisme à l'intérieur des administrations des institutions? Trois exemples des trois institutions législatives que sont le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission. Alors, au Parlement, pour des questions évidentes de démocratie, de transparence, les 21 langues sont langues de travail et officiel, c'est-à-dire qu'il y a une énorme batterie d'interprètes et de traducteurs. Et bien sûr, ce système est intégral, mais quand même maîtrisé, parce qu'on ne peut pas trouver des interprètes et des traducteurs dans toutes les combinaisons, du finnois en maltais, par exemple, imaginez. Donc, il y a un système de langue relais. Le finnois est traduit en anglais et le maltais se branche sur la version anglaise ou la version française. Il y a quelques langues relais qui permettent malgré tout que le système fonctionne, et il fonctionne. Il fonctionne. On dit que les services de traduction et d'interprétariat des institutions européennes est le plus grand du monde et aussi le plus performant. Donc c'est et ce qui fait dire d'ailleurs à des gens comme Umberto Eco que la langue de l'Union européenne, c'est la traduction. Je reviens à ce que m'a demandé, le coût.
Voilà, le coût
des
services
de traduction.
Si on peut avoir
une idée. C'est intéressant parce que ça montrera qu'on peut quand même le payer. Il est, en termes de millions d'euros, de 991 exactement, c'est le chiffre que j'ai trouvé, millions d'euros par an.
C'est-à-dire 991 millions d'euros par an,
oui.
Pour traduire toutes les langues.
Mais en termes de pourcentage, cela ne fait que 1% du budget total de l'Union, qui lui-même n'est que 1% du budget total du PNB de tous les pays de l'Union européenne. Et si vous transformez ça en coût pour le citoyen européen que nous sommes, que vous êtes, c'est 2,2 euros par citoyen.
Donc, on veut bien, on accepte. Alors maintenant, Madame Clairvoyer, comment expliquer la dérive vers le tout anglais? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation?
Oui, c'est une question très très intéressante que vous me posez là. Bien sûr, elle est tout à fait centrale à la question. Pourquoi? Parce que quand l'Union européenne s'est faite en 58, il y avait 4 langues officielles, le français, l'allemand, l'italien et le néerlandais. C'est tout.
Il n'y avait pas l'anglais. Le Royaume-Uni, donc il n'y avait pas l'anglais.
Exactement. Donc, et le français était la langue la plus utilisée, bien sûr, au grand confort des Français. Il faut bien le dire.
Bien sûr.
Depuis la fin de l'ère de l'or, on peut l'appeler comme ça, en 1995, et les élargissements successifs, l'anglais a pris une place prépondérante dans la communication interne et externe des institutions. Alors, quelles en sont les raisons ? Vous savez bien comme moi que l'anglais est quand même la lingua franca mondiale, non seulement pour le monde économique, mais aussi le monde scientifique. C'est aussi la langue majoritaire des brevets. Savez-vous que 80% des brevets déposés dans le monde sont en anglais? C'est aussi, il faut bien le dire, la langue la plus utilisée en Europe. Si seulement 13% des Européens sont de langue maternelle anglaise, il y a 38% des Européens qui déclarent que c'est leur langue seconde. Alors que pour l'allemand, il n'y a que 14%, ex aequo avec le français, 14%, vous voyez donc, la différence est assez importante.
Néanmoins, il n'y a pas un Européen sur deux qui parle anglais, ou qui le parle couramment en tout cas.
Non.
38% n'est pas encore un sur
Mais
deux.
Mais je vais vous donner un chiffre encore plus intéressant. Tout ceci est donné par l'Eurobaromètre, qui est le dernier Eurobaromètre qui a été publié en 2005. C'est de voir Moi, ça, c'est un chiffre qui m'a frappée. C'est de voir que près de la moitié des Européens déclarent ne parler qu'une langue.
Qu'une langue, la leur. Donc là, on est loin, non seulement de la diversité linguistique, mais d'apprendre la langue de l'autre. Hein. Il y a donc beaucoup d'efforts à faire encore.
Donc il y a un énorme effort à faire, et finalement, une énorme partie, presque 50% des Européens qui sont complètement exclus du débat.
Ben oui.
Si le débat ne se passe pas dans leur propre langue.
Voilà donc, une perspective pour l'Europe, en tout cas, oui. Il va falloir travailler la langue de l'autre.
Oui, très bien, mais si vous voulez, j'aimerais quand même continuer à faire la liste des raisons pour lesquelles l'anglais est devenu la langue dominante, parce que si on veut un petit peu équilibrer les choses, il faut connaître d'abord la réalité. Donc, il faut vous dire que, par exemple, l'anglais a été imposé dans les négociations d'adhésion à l'exclusion de toute autre langue, ce qui a donné à cette langue un grand essor dans tous les pays candidats. Il n'y avait pas moyen de négocier dans une autre langue, donc il fallait absolument se mettre à l'anglais. Les Roumains ont eu des petits problèmes, ils ont regretté beaucoup, parce qu'ils avaient tout préparé en français.
Et oui, et ça leur était plus familier, voilà, bien sûr.
Il faut vous dire aussi que les pays scandinaves qui ont rejoint l'Europe, l'anglais est une langue seconde presque naturelle, et que les pays de l'Est s'accommodent de l'anglais, car ils ont d'autres priorités à traiter. Ce sont des pays à population restreinte. Ce sont des pays de 3 millions, à part la Pologne qui fait 33 millions. Les autres sont petits. Donc, si vous voulez, ils savent très bien que leur langue ne sera jamais une langue
bien
utilisée
sûr.
À niveau international. Donc, ça leur est absolument égal d'avoir l'anglais plutôt qu'une autre langue. Comme l'anglais est devenu plus courant comme langue secondaire, bien, ils s'accommodent de l'anglais. Je dois dire que les institutions en sont parfaitement conscientes, puisque, et je crois que c'est un point positif à citer, un contre-feu positif récent depuis cette année, c'est que le nouveau statut du fonctionnaire européen lie sa première promotion à la capacité de travailler dans une troisième langue. Donc, on pousse, si vous voulez, les fonctionnaires à fonctionner dans non seulement deux langues, mais même trois.
Trois langues, voilà. Déjà un premier pas vers une diversité linguistique et un plurilinguisme, en fait.
Exactement. Donc, si vous voulez, on peut dire que par la force des choses, et peut-être un certain volontarisme certain, Londres a pris l'Union européenne en main. On peut être choqué par cette formule, mais la langue, c'est quand même aussi une forme de pouvoir. Et je dis Londres, mais je dis Londres basé sur Washington.
Claire Goyer, y a-t-il d'autres raisons à la dérive vers l'anglais ?
Il y a peut-être un certain nombre de mauvaises pratiques dans les institutions et aussi dans les États membres. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas accuser les administrations européennes de tous les maux, comme on a souvent coutume de le faire sur tous les médias. Donc, il y a des mauvaises pratiques. Je voudrais citer une mauvaise pratique, qui est un exemple assez étonnant, que les gens qui fonctionnent, qui ont des contacts avec les institutions connaissent bien. Vous savez que la Commission est l'organe qui doit présenter, proposer des politiques dans les domaines de ses compétences exclusives, dans les domaines de ses compétences. Et donc, pour ce faire, elle doit toujours, surtout en matière économique, en matière de concurrence, elle doit toujours faire des propositions, mais aussi demander l'avis et les commentaires des intéressés dans les pays membres.
Oui.
Alors, elle envoie donc des questionnaires, des documents de travail, des procédures pour observation. Eh bien, la mauvaise pratique, c'est qu'elle les envoie avant tout en anglais. Il est dit que la version en langue nationale suivra, mais ça arrive parfois très tard.
Et la réponse se fait finalement en anglais aussi, non ?
Mais c'est ça le problème, c'est que peut-elle se faire en anglais ? Les grands groupes ont des services juridiques, des personnels anglophones qui peuvent en effet débroussailler tout cela, parce que c'est parfois d'énormes documents, des audits, des rapports, etc., peuvent le faire et répondre en les temps. Mais que se passe-t-il pour les PME et pour les très petites entreprises ? Ils n'ont pas les moyens de répondre, disons en détail, leurs souhaits, de faire leurs observations. Et parfois, ils ne le font pas du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les pays anglophones ? Ils n'ont absolument pas cet handicap.
Bien sûr. Donc,
ils peuvent répondre.
Ils sont privilégiés de ce point de vue.
Voilà. Et donc, pour nous, pour moi, je pense que c'est une discrimination qui est grave et qui même peut entacher la directive ou le règlement pris après consultation, mais pas une vraie consultation, une consultation un petit peu pipée, si vous voulez, peut être entachée de nullité. C'est-à-dire que les partenaires économiques nationaux pourraient porter plainte à la Cour de justice européenne.
Le jeu est faussé. Alors,
le jeu est faussé, absolument. Mais ils ne le font pas.
Avec Claire Coyer, nous allons poursuivre cette conversation sur les propositions maintenant que sa section de défense de la langue française à Bruxelles Europe Diversité Linguistique va proposer dans un instant.
Chaque lundi, les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques se réunissent dans la salle des séances de l'Institut de France. Ils écoutent une communication sur un thème choisi.
Pour les séances de l'année 2006, le président de l'Académie, M. André Damien, a choisi le thème de la justice.
Sur Canal Académie en séance, vous permettra d'entendre, entre autres intervenants, Henri Amouroux sur la justice du peuple en 1944.
Maître Jacques Vergès, la passion de défendre.
La justice, thème de réflexion de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2006.
C'est chaque semaine dans En séance sur Canal Académie.
Retour dans notre studio en compagnie de Claire Goyer qui préside l'association Défense de la langue française Bruxelles Europe, diversité linguistique, c'est son nom. Alors Madame Goyer, quelles sont les actions que vous menez? Vous avez dit que vous étiez un groupe de pression en quelque sorte auprès des institutions européennes et à Bruxelles. Quelles sont ces actions que vous avez menées ou que vous allez mener et quelles solutions avez-vous à proposer pour améliorer le progrès vers la diversité linguistique?
Oui, merci de me poser cette question. Alors, pour nos objectifs, ils sont de l'ordre de trois principaux. Débattre avec le public, veiller à ce que le plurilinguisme soit bien respecté dans les administrations et dans les institutions européennes. Et le troisième volet, c'est favoriser la promotion du français, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est quand même encore une grande langue de communication européenne, internationale et une des grandes langues de travail des institutions européennes. Donc, les actions, bien voilà, nous avons commencé cette année à mettre en œuvre nos objectifs par un très beau colloque que nous avons organisé le 26 avril et qui a eu un très grand succès. C'était un débat, justement, sur la question de savoir si le plurilinguisme est une réalité ou une utopie. En fait, l'idée, c'était de faire reculer l'idée d'utopie. Là, nous avons eu des intervenants de très grande valeur. Je ne voudrais en citer qu'un et qui a fait sensation et qui est bien connu des milieux de la diversité linguistique, qui s'appelle Monsieur Grain, François Grain, qui est professeur à l'Université de Genève et qui, lui, il est bien le seul, je crois, à avoir fait un état des coûts. C'est-à-dire, c'est un économiste. Il a fait un état des coûts du multilinguisme et, à contrario, de l'unilinguisme, c'est-à-dire de l'anglais.
Et il en a conclu que le plurilinguisme, finalement, était pas si mauvais économiquement.
Le professeur François Grain démontre bien que le prix à payer par les Européens pour l'apprentissage de l'anglais est exorbitant. Si on tient compte en particulier des bénéfices que rapporte l'enseignement de l'anglais au Royaume-Uni, soit, pour donner une échelle de valeur, soit le montant du chèque britannique. Vous savez, ce chèque qui doit être remboursé au Royaume-Uni. Eh bien, cela fait à peu près 8 milliards d'euros par an.
Avez-vous mené une autre action que vous pourriez citer? Là, vous nous avez parlé d'un colloque. Y a-t-il eu une autre action intéressante, symbolique, j'allais dire, de votre façon de penser et d'agir?
Oui, nous avons écrit, comme je vous dis, dans le deuxième volet de nos objectifs, c'est de veiller à ce que le plurilinguisme soit respecté dans l'Union européenne. Pour ce faire, nous avons écrit au Comité des régions, qui est un des organes de l'Union européenne, pour dire notre étonnement sur l'affichage de sa façade, qui était en anglais « langue unique »,« Committee of the Regions ». Et nous avons fait remarquer que cet affichage était un petit peu contraire aux usages des autres institutions qui s'affichent en deux, trois langues et même comme le Parlement dans les 21 langues officielles. Eh bien, nous avons eu gain de cause et dans notre dernière revue, nous avons publié une photo de la façade du comité des régions rue Béliard à Bruxelles avec l'inscription en français et néerlandais, qui sont les deux langues officielles de la région Bruxelles-Capitale, alors que encore en mars 2006, c'était unilingue en anglais uniquement. Donc, c'est très intéressant.
C'est une victoire symbolique, mais elle marque bien votre volonté.
Oui, elle est très intéressante parce que cela prouve aussi que les institutions ne sont pas insensibles aux remarques et de voilà. La société civile. C'est d'ailleurs d'autant plus vrai qu'il a été ouvert dernièrement, en mars 2006, un forum de la société civile sur l'avenir de l'Europe sur Internet.
Alors Claire Goyer, pour l'avenir, dans les mois qui viennent, au courant de cette année, fin d'année 2006 ou dans l'année 2007 et plus tard, quelles sont les propositions, les actions que votre association Bruxelles Europe Diversité Linguistique souhaite mener ?
Eh bien, nous avons un projet important pour les mois qui viennent, c'est-à-dire véritablement de proposer d'élaborer d'abord et de proposer une sorte de code de bonne conduite détaillé allant du plurilinguisme intégral, comme je vous l'ai dit, session plénière du Parlement européen, oui, au plurilinguisme minimal, si on peut dire, bilinguisme français-anglais, selon les types de situations, pour éviter coûte que coûte la langue unique qui conduit à l'hégémonie d'une langue et d'une pensée. Car, si vous voulez, le gros problème, c'est que les politiques, le Conseil européen ne veut pas légiférer. Pourquoi ? Parce que va-t-il proposer trois langues, français, anglais, allemand, qui sont déjà les trois langues de travail de la Commission, mais enfin, pourquoi pas cinq ? Lesquelles ? Et c'est parce que le sujet est très explosif qu'il ne peut pas, il ne veut pas légiférer. Donc, il y a une situation de laisser-faire.
Un vide juridique, comme on dit.
Un vide juridique. Mais, nous pensons qu'entre le laisser-faire et la contrainte, il y a peut-être place pour des injonctions, pour des conseils, voyez, de manière à éviter ce clash qui pourrait avoir lieu en cas
de décision arbitraire.
Voilà. Si vous voulez, c'est notre objectif, bien sûr, et nous continuerons à envoyer des lettres et à faire ce que je vous ai expliqué pour les deux premiers objectifs.
En tout cas, sur le site internet de Canal Académie, nous ne manquerons pas de citer vos adresses et votre site, si vous en avez un, afin que nos auditeurs puissent vous rejoindre s'ils le souhaitent. Je vous remercie d'être venu, de nous avoir éclairé sur ce que l'on peut faire pour promouvoir le plurilinguisme au sein de l'Europe. Merci, Madame Goyer.
Merci, Hélène Renard.